Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, un nouveau scandale sanitaire, des salmonelles détectées dès le mois de décembre dernier dans l'usine Ferrero belge qui produit les chocolats Kinder, rappelés en urgence. Dans ce journal, focus sur le boucher de Boutcha. Des activistes ukrainiens pensent avoir mis le doigt sur l'officier russe responsable du massacre de centaines de civils. Ça s'en va et ça revient, c'est censé ne prendre que quelques minutes. Vous pouvez remplir votre déclaration de revenus. À suivre les nouveautés pour cette année. J-3 avant le premier tour, dernier meeting ce soir pour les candidats, tandis que pour la première fois, les handicapés mentaux pourront voter à une présidentielle. Des affrontements entre supporters avant le match OM-PAOK Salonique ce soir à Marseille. On sera en direct du stade Vélodrome en fin de journal. Le temps demain sera très agité, plusieurs départements en vigilance orange pour vent violent ou avalanche. Un point complet à suivre avec Marlène Duret. Puis avant la libre antenne, on regardera les unes des quotidiens demain matin à J-2 donc du premier tour.
Europe 1.
Le groupe Ferrero l'a admis. Aujourd'hui, le fabricant des chocolats Kinder reconnaît que des salmonelles avaient été détectées dès le mois de décembre dernier dans son usine belge, là même où sont produits les chocolats Kinder rappelés en masse ces derniers jours au mode des camps.
Oui, le 15 décembre dernier, le chocolatier a détecté, au cours d'un autocontrôle, la présence de salmonellose dans son usine d'Arlon, en Belgique, d'où proviennent justement les Kinder qui ont été rappelés cette semaine. Ferrero assure avoir, à l'époque, arrêté sa production et ne pas avoir livré les produits fabriqués dans les 5 jours qui ont précédé le contrôle. L'industriel maintient ne pas avoir trouvé de traces de salmonelle dans son usine dernièrement. Mais pour Quentin Guillemin, président de l'association des victimes du lait Lactalis contaminé à la salmonellose en 2017, c'est encore une fois l'histoire qui se répète.
On s'aperçoit aujourd'hui que, malgré les recommandations qui avaient été faites, rien n'a été fait sur la question des autocontrôles de ces entreprises et on en est à attendre des personnes hospitalisées pour agir. Et cet état des lieux, il avait déjà été fait en 2017. 5 ans après, on se retrouve avec le même type d'affaires.
Une enquête est actuellement en cours avec les autorités chargées de la sécurité alimentaire. Elle déterminera s'il y a eu ou non des manquements de la part du chocolatier. Je vous rappelle qu'en France, 21 malades, dont 15 qui ont consommé des produits Kinder concernés, ont été recensés.
Merci Maud Descamps. Et la plupart de ces malades sont de très jeunes enfants. Quelques jours après la découverte du massacre de Boutcha en Ukraine, la Russie a été suspendue aujourd'hui du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après un vote des pays du monde entier. Il n'existe qu'un seul précédent dans l'histoire, c'était en 2011 avec la suspension de la Libye de Kadhafi. Ce jeudi, à l'Assemblée générale de l'ONU, 93 pays ont voté pour la suspension de la Russie, 24 contre, 58 se sont abstenus. L'enquête sur le massacre de Boutcha se met en place. La France a envoyé des gendarmes et des magistrats. Les services de renseignement allemands, pour leur part, ont intercepté des échanges radio où l'on entend des soldats russes décrivant les exactions commises à Boutcha. Les bourreaux ont-ils, oui ou non, obéi à des ordres? Des activistes ukrainiens pensent avoir identifié celui qu'ils appellent le boucher de Boutcha. Il s'agit d'un officier supérieur de l'armée russe, Johann Dritz.
Oui, l'homme dans le viseur de ces activistes s'appelle Azatbek Omurbekov, devenu en quelques heures l'ennemi numéro 1 en Ukraine et surnommé le boucher de Boutcha. C'est, d'après l'information de ce groupe ukrainien, le chef du bataillon russe qui occupait la ville et ses alentours, soupçonné d'avoir orchestré les viols, le pillage et le massacre de centaines de civils. Cet officier, lieutenant-colonel d'une quarantaine d'années, a déjà sévi dans le pays en 2014, où il avait été à l'époque signalé en Crimée dans le Donbass. Le gouvernement russe l'a décoré dernièrement pour service exceptionnel et avant de partir pour cette opération, il a même reçu la bénédiction de l'église orthodoxe. Il serait aujourd'hui à la tête de 1600 hommes qui se sont repliés en Russie il y a quelques jours, laissant la région de Kiev dans le chaos. C'est une enquête du groupe surnommé Informe Napalm, aidé par des hackers, qui a permis de l'identifier. Sa photo a ensuite été mise en ligne, mais aussi son adresse postale, son adresse mail et même son numéro de téléphone. Rappelons qu'il s'agit d'une enquête provisoire et que rien n'a été confirmé pour le moment.
Johann Dritz à Borodianka, près de Kiev. Les secouristes viennent de découvrir 26 corps dans les décombres de 2 immeubles d'habitation bombardés par les Russes. Ursula von der Leyen se rendra demain à Kiev. La présidente de la Commission de Bruxelles veut montrer ainsi le soutien indéfectible des 27 à l'Ukraine. Et puis un autre dirigeant de l'Union européenne envoie lui aussi un message, mais qui s'adresse cette fois aux soldats russes. Écoutez Charles Michel, président du Conseil européen.
J'ai un message pour les soldats russes sur le champ de bataille. Si vous ne voulez pas participer au meurtre de vos frères et sœurs ukrainiens, si vous ne voulez pas être considérés comme des criminels, baissez les armes, arrêtez de vous battre, quittez le champ de bataille. Et je sais, chers députés européens, qu'il y en a parmi vous qui seraient prêts à offrir une protection aux soldats russes qui n'exécutent pas les ordres. C'est à mon avis une bonne idée qui devrait être renforcée.
Charles Michel, président du Conseil européen. Les 27 prennent de nouvelles sanctions contre Moscou. Arrêt des importations de charbon russe, fermeture de tous les ports européens aux navires russes. Dans un vote à une écrasante majorité aujourd'hui, les eurodéputés demandent aux États membres d'aller encore plus loin et d'arrêter immédiatement d'importer du gaz et du pétrole russe. Et puis on apprend à l'instant que l'Union européenne se dit prête à débloquer 500 millions d'euros supplémentaires pour financer des armes pour l'Ukraine. Pour certains, ce n'est qu'une simple formalité. Pour d'autres, c'est une corvée. Vous pouvez dès aujourd'hui compléter votre déclaration de revenus pour 2021. Et cette année apporte son lot de nouveautés, Élise Dangean.
Oui, alors la principale nouveauté, c'est la revalorisation de 10% du baromètre de l'indemnité kilométrique qui sert aux entreprises à rembourser les frais professionnels. Objectif, aider les Français qui roulent beaucoup dans le cadre de leur activité à faire face à la flambée des prix du carburant. Au total, 2 500 000 foyers sont concernés. Et pour inciter les gros rouleurs et les autres à passer à l'électrique, il y a un nouveau crédit d'impôt qui peut monter jusqu'à 300 euros pour tous les Français qui ont installé chez eux une borne de recharge pour un véhicule électrique. En revanche, terminé le Pinel pour les maisons individuelles. Le dispositif qui permet d'obtenir une réduction d'impôt de 12 à 21% du prix du logement acheté, si vous le mettez en location, eh bien est recentré sur les appartements. Enfin, sachez que les mesures exceptionnelles prises l'an dernier pour le télétravail sont maintenus, ce qui veut dire que les allocations versées par les employeurs pour compenser les frais du travail à domicile, comme Internet ou l'électricité, eh bien restent exonérées d'impôts à hauteur de 580 euros par an.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Un petit point sur les dates limites justement pour déclarer vos revenus. Vous avez jusqu'au 19 mai si vous choisissez la déclaration papier. En revanche, si vous passez par Internet, la date limite s'échelonne du 24 mai au 8 juin en fonction de votre département de résidence.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Après plusieurs manifestations violentes en Corse consécutives à l'agression mortelle d'Ivan Colonna, un premier procès, celui d'un lycéen de 18 ans, interpellé dimanche dernier à Furiani. Les policiers ont trouvé dans sa voiture 24 cocktails Molotov et une cagoule, Frédéric Michel. Le jeune prévenu a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois ferme, qu'il purgera avec un bracelet électronique.
Oui, et les juges se sont montrés moins sévères que le ministère public, qui avait requis une peine de 18 mois de prison, dont un an ferme, qualifiant les faits de grave, rappelant qu'un cocktail Molotov est une arme de guerre et que les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité de tous. À la barre, chemise blanche boutonnée jusqu'au col, le garçon d'1m92 au visage juvénile, les mains croisées dans le dos, a répondu poliment à toutes les questions de la cour, comme il l'avait fait en garde à vue, sans demander d'ailleurs la présence d'un avocat, s'expliquant surtout et reconnaissant les faits, les jets de pierre, le transport dans un sac et d'engins incendiaires, à la demande d'individus qu'il ne connaissait pas. « On m'a retourné le cerveau », raconte le jeune homme qui participait, l'enquête l'a prouvé, à sa première manifestation. « J'ai pas réfléchi, je suis désolé ». Sans lien avec des mouvements nationalistes, ce lycéen en bac pro de ferronnerie, doué et travailleur selon ses professeurs, dit avoir compris la leçon. Pour son avocate, maître Aurelia Dominici Campagna, il ne fallait pas que la justice le condamne lourdement. Pour faire un exemple,
on est censé juger les personnes par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'elles ont fait, et non pas par rapport à l'intégralité des faits qui se passent aujourd'hui en Corse.
Être un adulte, c'est réfléchir avant d'agir. Être quelqu'un, c'est savoir dire non, a conclu l'un des juges à l'adresse du jeune homme.
Et Frédéric Michel à Ajaccio pour Europe 1. Le premier tour dans 3 jours, et pour la première fois, les handicapés mentaux vont pouvoir voter à une présidentielle. Depuis 2019, la loi autorise tous les déficients mentaux sous tutelle à participer aux élections. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, se rendre aux urnes seuls. Des ateliers les familiarisent avec ce nouveau droit. Yasmina Katou en a suivi un dans un foyer d'accueil pour handicapés à Gennevilliers, près de Paris.
Accrochés au mur sous les photos de chaque candidat, leur programme, Amanda et Gisèle, responsables de l'atelier citoyen, détaillent les mesures phares avec des mots simples aux 9 résidents, tous atteints d'un handicap mental.
On va commencer par Valérie Pécresse. Elle souhaite augmenter le départ de l'âge de la retraite à 65 ans, elle.
C'est vrai, ça ? Oui. Par rapport aux personnes âgées, elle propose des maintiens à domicile en doublant les impôts.
La présentation des programmes terminée, la petite salle polyvalente se transforme en bureau de vote. L'urne transparente prêtée par la mairie est installée. Les bulletins de vote des 12 candidats sont associés à leurs photos pour simplifier cette tâche que certains découvrent pour la première fois, comme Céline, 31 ans.
Je vais en mettre un ou deux.
C'est combien de bulletins ?
Un seul.
Parce que sinon c'est un vote. Voilà, donc tu vas dans l'isoloir.
Et moi, c'est qui m'aidera là-bas ?
Eh ben, il y aura des éducateurs qui seront là pour t'aider.
À voter.
C'est bien de voter.
C'est important.
Oui.
Un second entraînement au vote est prévu 2 jours avant le premier tour pour que chaque étape soit connue par tous les résidents.
Un reportage Yasmina Katou. Les candidats puisent leur dernière force, dans la dernière ligne droite, à peine plus de 24 heures, et c'est le clap de la fin de la campagne présidentielle, de la campagne officielle. Ce sera donc demain soir, minuit. Les prétendants à l'Élysée tiennent donc leur dernier meeting avant le premier tour. Le vote écologiste est toujours efficace. Casse pour Yannick Jadot ce soir à Nantes. Éric Zemmour, lui, est à Paris. Marine Le Pen à Perpignan évoque un choix crucial pour une génération. À Lille, le communiste Fabien Roussel ne veut pas opposer, dit-il, la lutte des classes et la fonte des glaces. Philippe Poutou lui donne un meeting ce soir à Toulouse. Valérie Pécresse était à Lyon. Il reste 3 jours pour renverser la table, a compté la candidate Les Républicains. Un phénomène rarissime s'est produit sous les yeux des secouristes et de la police le mois dernier en Seine-Saint-Denis, en plein milieu de sa tournée. Un éboueur âgé de 66 ans fait un infarctus. Le SAMU essaie de le réanimer. Après 50 minutes de massage cardiaque, l'employé est déclaré mort. Une demi-heure s'écoule quand les forces de l'ordre remarquent que cet homme est en fait encore en vie. Comment l'expliquer ? Réponse du professeur Frédéric Adnet, chef du SAMU du 93.
Au bout de 50 minutes, devant cette réanimation qui est vaine, l'équipe décide d'interrompre cette réanimation et déclare le patient décédé en rédigeant un certificat. Quelques dizaines de minutes après, le patient aurait repris une respiration. C'est un phénomène extrêmement rare, qui est le phénomène de Lazare. C'est à la fin d'une réanimation, quelquefois, le cœur reprend une activité plusieurs minutes après la fin de la réanimation. Et on pense que lorsqu'on arrête une réanimation, il y a une modification des pressions qui entourent le cœur et qui le remet dans une configuration favorable pour une reprise d'activité efficace. C'est malheureusement ce qui s'est passé. Malheureusement, je le dis parce que on aurait aimé que le cœur reparte pendant la réanimation, ce qui aurait amélioré le pronostic. Actuellement, le patient est en état extrêmement critique. On est très pessimiste sur son pronostic.
Le professeur Frédéric Adnet, patron du SAMU de Seine-Saint-Denis. Au moins 2 morts et 8 blessés dans une nouvelle attaque en Israël, en plein centre de Tel Aviv. Des témoins ont entendu des coups de feu. Ils décrivent des scènes de chaos. C'est la 4e attaque en un peu plus de 2 semaines. L'Olympique de Marseille reçoit ce soir les Grecs du PAOK Salonique en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Stéphane Burgat, vous êtes en direct du Vélodrome pour Europe 1. Beaucoup d'incidents entre supporters grecs et marseillais avant le match, Stéphane. Si l'on parle du terrain, en tout cas, les Marseillais ont pris l'ascendant.
Oui, c'est vrai. Enfin, on arrive à parler du match, du football. Les LOM, effectivement, qui mènent 2-1. Ils avaient fait la différence en première période. Les Marseillais, l'ouverture du score de Gerson au quart d'heure de jeu, bien servi par Dimitri Payet à la limite du hors-jeu. Il arrive à tromper Pochardakis, le gardien grec, d'un bon extérieur, pied gauche efficace. Et puis le but vraiment sublime, Dimitri Payet, le passeur décisif qui devient buteur, servi plein axe sur un corner. Il reprend de volée une frappe d'une vingtaine de mètres qui va atterrir dans la lucarne. Superbe but, et à la mi-temps, donc l'homme qui menait 2-0, ils viennent de se faire un petit peu reprendre, réduction du score à l'instant par les Grecs en seconde période par El Koudouri. C'est toujours à la limite vraiment entre le parquage des supporters grecs et des Marseillais, mais ça tient, espérons que ça reste là et puis qu'on puisse profiter surtout du spectacle sur le terrain. 2-1 pour l'OM face au PAOK.
Merci Stéphane Burgat, en direct du stade Vélodrome pour Europe 1. Un autre match se joue ce soir en Ligue Europa, 0-0 pour l'instant entre West Ham et Lyon. Le temps pour ce vendredi, Marlène Durès, c'est un cocktail de pluie, de vent violent et d'avalanche sur les reliefs qui nous attend, avec en prime une alerte orange dans 4 départements.
Absolument Alexandre, on va commencer par les vents. Beaucoup d'agitation ce soir et cette nuit sur le Cap Corse et la Balagne, avec des pointes à 110 km à l'heure, demain aussi. Aux abords du relief des Alpes, des Vosges et du Jura, des pointes à 100 km à l'heure plutôt en journée. Il y a évidemment la tempête Diego qui arrive par l'Atlantique et les vents qui se renforceront demain après-midi sur le Poitou-Charentes, le nord de l'Aquitaine, le centre, le nord du Limousin et le massif central jusqu'aux Cévennes. Alors près des côtes, on prévoit des rafales qui peuvent atteindre les 120 km à l'heure. Dans les terres, 100-110 et une alerte orange est en cours dans 3 départements, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vienne. Mais il est possible que d'autres départements viennent se rajouter demain matin en raison du risque de déferlement dans les grandes vallées d'Auvergne à surveiller. Ça va souffler fort aussi des Pays de la Loire au sud de Paris et sur le Grand Est. On continue avec la pluie, nouvelle perturbation qui va arroser une large moitié nord, de bonnes pluies même, parfois mêlées à des coups de tonnerre pour les régions allant de la Bretagne et de la Normandie à l'Île-de-France et au Grand Est. Sachez que la neige pourra remplacer la pluie dans l'après-midi dans ces régions. Et elle ne tiendra pas au sol, je vous rassure. La neige, justement, on poursuit. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les amateurs de glisse de la dernière heure. Perturbation très active qui touche actuellement les Alpes. Forte précipitation jusqu'à samedi et une limite pluie-neige qui va s'abaisser à 600-700 mètres samedi. Mais gare aux avalanches, la Savoie est placée en alerte orange. On termine par les températures. Gros contraste. Elle baisse au nord et monte au sud avec 5 à 10 degrés au nord de la Seine, 5 par exemple du côté de Lille. Nous aurons 17 à 21 en revanche au sud de la Garonne et dans les régions méditerranéennes. Et puis, je peux vous dire que ça peut monter jusqu'à 23, 25 sur la Côte d'Azur et en Haute-Corse. Et puis sur le reste du pays, parce que c'est vraiment le contraste nord-sud, 10 à 16, 10 à Paris, 14 à Strasbourg, 15 au Mans et 16 à Lyon.
Eh ben, vous nous avez gâtés ce soir, Marlène.
J'ai essayé d'être complète.
Vous l'êtes. Merci Marlène Duret. Nouveau point météo avec vous tout à l'heure à minuit. Restez avec nous dans un instant. C'est Top à Wall Street. Et puis J-3, avant le premier tour, la parole à tous les candidats. Vous entendrez Dalila Berbagui, directrice de campagne du candidat Jean Lassalle.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, la journée avait démarré en baisse à Wall Street, mais les marchés ont réussi à redresser la barre en fin de séance.
Oui, plutôt une belle remontée pour les indices. Le Dow Jones gagne 0,25%, 34 584 points. C'est plus timide pour le Nasdaq, en hausse de 0,06%. Du vert, malgré des tensions persistantes sur les taux d'intérêt. Les minutes de la Fed ont confirmé hier que la Banque centrale américaine garde le cap. Elle va resserrer rapidement sa politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus du côté de la guerre en Ukraine. Les négociations sont compliquées entre Kiev et Moscou. Alors on a quand même des valeurs qui se distinguent, et notamment HP qui s'envole de 15%. Le titre est propulsé par le milliardaire et investisseur Warren Buffett. À 91 ans, via son fonds d'investissement Berkshire Hathaway, il s'est offert une participation de 4,2 milliards de dollars au capital de HP, le numéro 2 mondial du marché des ordinateurs et imprimantes.
Les grandes valeurs de la tech ont terminé dans le désordre, avec d'abord Twitter qui perd plus de 5%.
Moins 5,4% pour Twitter après un beau parcours en début de semaine avec l'arrivée au capital d'Elon Musk. Apple gagne 0,2%, Tesla plus 1%. C'est du rouge aussi pour Lévi-Strauss. Petite baisse pour le roi du jean, malgré des résultats financiers solides, avec une forte demande et des prix en hausse pour ses vêtements. Du côté du pétrole, le baril WTI lâche encore 1%. On est à 95$ sur le NYMEX. Et puis l'euro, 7,01%. 1,0884 donc face au billet vert.
Le marché parisien a tenté sans succès de rebondir après 2 séances déjà compliquées.
Et un climat de prudence toujours à Paris, avec en plus un petit peu de nervosité liée à l'approche du premier tour de la présidentielle. Le CAC 40 perd donc 0,57%, 6461 points. Le secteur de la santé se distingue tout de même, et notamment Sanofi. Le groupe a obtenu le feu vert de la Commission européenne pour l'utilisation du Dupixent pour le traitement de l'asthme sévère chez les enfants de 6 à 11 ans. C'est du vert aussi dans la santé pour Eurofin Scientifique. En baisse, parmi les valeurs qui pèsent lourd à Paris, on a ce soir Total Énergie, moins 1,6% pour Total. Ailleurs, en Europe, c'est du rouge pour Londres et Francfort qui perdent 0,5%. Milan, moins 0,6%. Madrid, moins 0,2%. Et le CAC 40 recule de 0,6%, 6461 points.
Merci Claire Lemaître.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Dans trois jours, le premier tour de la présidentielle. Les candidats ont jusqu'à demain soir minuit pour défendre leur programme. Ils ont toutes et tous la parole sur Europe 1. Ce soir, Dalila Berbagui, directrice de campagne du candidat Jean Lassalle. Elle répond à Louis Dragnel.
Bonsoir Dalila Berbagui et bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la directrice de campagne de Jean Lassalle, candidat pour la seconde fois à l'élection présidentielle. On est à quelques heures du premier tour qui aura lieu ce dimanche, le 10 avril. On va revenir sur la polémique du jour. Jean Lassalle a traité de chien un journaliste. Que s'est-il passé et est-ce que vous le regrettez?
Bonsoir Louis de Ragnel. Écoutez, donc effectivement, donc hier soir, donc il y a une séquence donc à la fin de l'interview à France Info Télévision. Donc Jean Lassalle a utilisé ce terme, sachant qu'il voulait dire surtout dans l'expression de nouveaux chiens de garde en parlant de certains médias nationaux. Donc sa colère, elle s'explique par le fait qu'il y a eu un article de l'un de vos confrères. Enfin, c'est pas vos confrères directement, c'est un journaliste de France Info, et il était invité sur France Info, qui a écrit un article, mais vraiment, il n'y a pas d'autre terme que de dire dégueulasse. Honnêtement, j'utilise ce terme-là volontairement, parce que le titre de cet article, c'était « Complotiste des villes, complotiste des champs ». Sous-entendu, complotiste des villes, c'est Nicolas Dupont-Aignan, et complotiste des villes, des champs, pardon, Jean Lassalle. Sachant que quand même, l'expression, évidemment, vous rappelle bien le rat des villes et le rat des champs, même si c'est pas le terme qui est utilisé. Et voilà, moi je trouve ça scandaleux, parce que qu'on critique quelqu'un, c'est une chose. La critique doit être en fait, elle est légitime. Enfin, la critique, elle peut être faite par qui que ce soit, mais d'aller jusque là, de traiter les gens de complotistes parce qu'on n'est pas d'accord avec une opinion, c'est toujours en fait l'étiquette trop facile. Pour éviter toute, justement, possibilité de faire des critiques.
Après, on peut choisir des mots différents. Vous considérez que Jean Lassalle aurait dû employer un autre mot?
C'est son mot, et moi, honnêtement, je ne vais pas vous dire là, il a eu tort ou quoi que ce soit. Je peux comprendre, je dis bien. Alors, qu'au bout d'un moment, quand vous ramassez des coups comme ceux-là qui sont complètement il a quand même été traité de crétin complotiste par un de vos confrères de Libération à un moment. Je veux dire, si on n'avait pas des termes aussi durs et aussi dénigrants, eh ben on n'aurait pas une réponse telle que celle-ci. Donc à un moment, quand on cherche avec des arguments complètement injustifiés, des faits qui sont totalement faux, eh ben vous pouvez comprendre qu'à un moment, ben la colère monte et puis ça sort, quoi.
Alors, on entend hein, votre réponse, mais c'est vrai que Jean Lassalle est connu pour son franc-parler. Alors, parfois aussi, ça peut toucher, ça peut même émouvoir certaines personnes. Je me souviens, sur Europe 1, ici même, il avait expliqué que les médias le considéraient comme un candidat de merde. Et puis, plus récemment, il a déploré une campagne pourrie. On a l'impression qu'il en a gros sur le cœur. Est-ce que vous aussi, vous en avez sur le cœur en cette fin de campagne? Qu'est-ce qui est douloureux dans cette fin de campagne?
En fait, on en a sur le cœur, bien sûr. Moi aussi, je suis colère parfois. Colère pourquoi? Après, on reste toujours respectueux. Je veux dire, après, bon, il y a des termes parfois qui échappent. Hein. Il y a quand même un certain Macron qui a dit emmerder les Français. Donc, je pense qu'on peut pas certainement pas la même hauteur, alors que c'est quand même quelqu'un qui est censé incarner la fonction présidentielle. Et Jean Lassalle, déjà, ne s'adresserait jamais comme ça aux Français. Donc, ça, déjà, c'est une chose. Après, les médias nationaux, encore une fois, quand ils s'attaquent à quelques-uns, c'est parce que, justement, ils ont eu des arguments complètement, des faits, ils ont utilisé des faits qui sont totalement faux. Et encore une fois, quand il utilisait le terme de lâche, quand il s'est exprimé devant certains journalistes, il désigne un système médiatique. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle, vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
Donc, pourquoi on en a gros? Parce qu'on a, comme tout le monde, on est allé chercher les parrainages. Comme tout le monde, on a coché toutes les cases pour qu'il soit candidat. Et ensuite, le traitement n'est pas le même. Je veux dire, pourquoi, à un moment, on décide d'inviter certains candidats dans des débats et d'autres...
Alors, sur Europe 1, Jean Lassalle a toujours été invité, même bien avant les questions d'égalité de temps de parole, hein, pour le rappeler.
Alors,
quand
par
même.
Contre, non, puisqu'il y en a un, vous l'ignorez peut-être, mais il y a eu un débat sur Europe 1, le journal du dimanche, et je n'ai plus l'autre média en tête, ça me reviendra. Où il y avait en fait, et d'ailleurs en plus c'est pire que cela, parce que c'était dans le temps de l'égalité de temps de parole. Dans l'égalité de temps de parole, il y a eu un débat sur les réseaux sociaux, Et il y avait 6 candidats.
En tout cas, à l'antenne d'Europe 1, moi je me souviens, j'ai participé à l'entretien avec Jean Lassalle et c'était hors question d'égalité de temps de parole. Il était le bienvenu, comme tout candidat, comme homme politique, voilà, président d'une formation politique. Et par rapport à ça, en tout cas, Europe 1, nous n'avons pas à rougir. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est donc vous déplorez le système médiatique français. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système politique français ? Parce que vous n'êtes pas responsable médiatique, vous êtes responsable politique. Vous voulez changer les choses. Jean Lassalle est candidat à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut changer ?
Voilà. Alors après, quand il critique justement ce système médiatique, c'est-à-dire que ce sont derrière les grands milliardaires qui détiennent ces médias. Donc ce n'est pas les journalistes en eux-mêmes, on fait bien la différence entre le journaliste...
Justement, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut réformer politiquement dans le pays, qu'est-ce qui ne va pas selon vous ?
Vraiment remettre à plat tout le système, ça veut dire qu'il faut engager une loi, votée à l'Assemblée nationale, pour que les médias ne soient plus financés à 90% par les milliardaires. Donc il faut trouver des fonds publics, il faut trouver des fonds
Justement, ma question, elle portait sur le système politique. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système politique ? Parce que là, vous parlez beaucoup des médias. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Parce qu'un candidat à la présidentielle, il veut changer la vie des gens, il veut faire des réformes.
Pour changer le système médiatique, donc je vous ai répondu là-dessus.
On a bien compris.
Voilà. Après, bien sûr, on a tout un projet, parce qu'évidemment, nos institutions sont évidemment à réformer, notamment... Jean Lassalle utilise souvent l'expression que l'Assemblée nationale est devenue un théâtre d'ombre, c'est-à-dire que tout est déjà décidé. L'élection présidentielle, ensuite on a une majorité présidentielle qui émerge, alors que peut-être cette fois-ci ce ne sera pas le cas, parce que vu que c'est un contexte très particulier, le président sortant n'aura certainement pas une majorité présidentielle, sauf si c'est Jean Lassalle qui est élu, et là, ça changerait beaucoup de choses. Et donc, il faut justement qu'on mette en place les réformes. Par exemple, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui permet justement que les citoyens contribuent davantage et participent davantage au débat démocratique et à la vie politique. Il faudrait mettre en place le vote blanc, c'est-à-dire qu'il soit vraiment reconnu comme étant un suffrage exprimé et non pas seulement comptabilisé. Puisque là, quand vous avez le vote blanc qui est justement reconnu et qui est comptabilisé comme un suffrage, ça change beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des représentants qui sont élus avec 10 ou 15% des inscrits.
On arrive bientôt à la fin de notre entretien. Et juste une question. Aujourd'hui, si vous deviez convaincre, quelles sont les deux mesures les plus fortes de Jean Lassalle pour la vie des Français ? Qu'est-ce qu'il propose qui est vraiment en rupture par rapport aux autres candidats ?
Alors, s'il y avait deux mesures fortes, je dirais que ce sont celles qui sont en lien avec le pouvoir d'achat, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Donc, ce serait d'augmenter le SMIC progressivement, de commencer à 1400 euros net et ensuite progressivement en négociation branche par branche avec le patronat, les syndicats, d'augmenter progressivement le SMIC.
Merci beaucoup Dalila Bergabi. Donc vous êtes directrice de campagne de Jean Lassalle. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne soirée et bon courage.
Dalila Bergabi, directrice de campagne du candidat Jean Lassalle, répondait à Louis Dragnel.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Un coup d'œil aux unes de la presse pour demain, vendredi 8 avril. Dernier tic-tac avant le premier tour, J-2. La Croix semble se réjouir. Le scrutin, enfin, après 8 mois d'une campagne à rebondissement, le premier tour de l'élection présidentielle pèsera lourd dans la recomposition de la scène politique française, écrit La Croix. L'abstention peut-elle tout changer ? C'est ce que se demande Le Figaro. L'hypothèse d'une participation historiquement basse est susceptible de faire basculer les rapports de force ce dimanche. Elle inquiète les états-majors des candidats à la présidentielle. L'opinion voit dans ces élections une décomposition politique sans fin. En 2017, venu à bout de l'opposition droite-gauche, Emmanuel Macron devait recomposer le système politique, mais il a été rattrapé par un autre clivage, celui entre peuple et élite. Libé, et vous, ça va ? Titre Libération. Libé s'adresse ainsi aux électeurs de gauche, vote de conviction ou choix stratégique à deux jours du premier tour. Et face à la montée de Marine Le Pen, le cœur des indécis de gauche balance. Libération est allée à leur rencontre. Des voix pour les jours heureux, c'est ce que souhaite l'humanité. Bien sûr, les jours heureux, référence au leitmotiv du candidat communiste Fabien Roussel, salarié du privé ou du public, acteur de la culture, du mouvement social, habitant de la ville ou de la campagne. Ils ont fait le choix de voter Fabien Roussel. Ils l'expliquent, ils disent pourquoi dans les colonnes de l'Humanité demain matin. 22h31, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier. Olivier Delacroix.
Ouais. J'allais vous reprendre.
Ben oui, je me suis repris tout seul.
Comment ça va?
Ça va et vous?
Oui, très bien.
Bon.
Bon. Roussel, là, il est en forme pour son élection?
Ben, ils ont tous tenu, comme Fabien Roussel, tous les candidats ont tenu ce soir leur dernier meeting, puisque et vous savez demain, Olivier, que c'est la fin de la campagne officielle, vendredi minuit. C'est la fin.
C'est le début d'un grand destin pour la France.
Plus personne ne peut défendre son programme.
Voilà. Le destin de la France, là, est suspendu à ce vote. Déjà, ce premier vote. Non, mais ça va être passionnant. Je trouve que c'est assez passionnant, cette campagne, même si tout le monde dit qu'il n'y a pas eu de campagne, j'ai l'impression quand même qu'on en mange depuis un bon mois et demi, voire deux mois quand même.
Ouais, c'est une campagne très particulière.
Particulière.
Entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, forcément.
Oui, puis avec un président aussi qui ne faisait pas vraiment campagne aussi, parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu tout un tas de choses. Donc c'est vrai que c'était particulier, mais c'était assez intéressant, j'ai trouvé.
Il y a toujours du suspense.
Oui, puis on a entendu pas mal les Français s'exprimer, donc c'est toujours très intéressant. Bon, et vous vous exprimez quand? Au soir du premier tour, Alexandre Le Maire prendra la parole.
À 23h dans un premier temps, si ça vous ennuie pas.
Exactement. Alors, à tout à l'heure, mon cher Alexandre.